Je donne maintenant la parole à, en enlevant mon masque, à Josiane Savigno, qui parlera de Philippe Roth. Là aussi, c'est en faisant le cours sur les fins de la littérature, Roth était un cas à aborder. Vous voulez parler debout, assise ? Debout ? Eh bien, je vous laisse la place.
Alors moi aussi, je voudrais d'abord remercier Elisabeth Rousseau qui m'a réconfortée, parce que soyons clairs, je ne suis pas spécialiste de l'œuvre de Roth, donc je ne suis pas légitime pour parler ici, mais je vais le faire, parce que j'ai eu la témérité, ou peut-être l'inconscience, d'accepter la proposition du professeur Compagnon de parler de ce qu'on peut appeler la fin de Philippe Roth. Donc je ne suis pas spécialiste, je suis seulement dépositaire d'une histoire un peu étrange, celle d'une journaliste qui a suivi une œuvre en train de se faire pendant 25 ans, qui est allée voir son auteur au moins une ou deux fois par an et qui a assisté à ce coup d'arrêt qui a été sa décision non seulement de ne plus publier, mais de ne plus écrire de fiction, car à sa mort, on n'a retrouvé aucun texte. Donc ce que je vais vous dire, c'est surtout un témoignage. Alors, dans cette affaire, il y a d'abord un aspect anecdotique auquel je m'étais arrêtée avant de suivre le cours du professeur Compagnon. Mais il y a certainement quelque chose de plus profond qui est inscrit dans l'œuvre et à quoi j'ai tenté de réfléchir après avoir suivi le cours. Alors, prenons d'abord l'anecdote. De 2006 à 2010, Roth a écrit un livre par an. Chaque année, à une de mes visites au moins, il me donnait le livre suivant, pas encore traduit en français. Après Némésis, publié en 2010, il m'a dit « je n'ai rien à te donner ». Il n'y a pas de livre suivant, je n'écris pas. Alors, comme il adorait me faire de mauvaises blagues du genre « Ah, te voilà, je t'attendais demain », je me suis dit « C'est une blague ». Donc je lui ai dit « C'est une blague ». Et puis, j'ai rien écrit dans le monde. J'ai absolument pas pensé que c'était une information. Et quelques mois plus tard, il a reçu Nelly Caprélian pour Les Inrecuptibles. Il lui a dit « Je crois que c'est fini, que je suis fini ». Et alors elle a cru, elle a publié. Un journaliste américain l'a lu, l'information est sortie aux États-Unis et c'est devenu, disait Roth, une affaire que je n'avais pas prévue. Je n'avais pas l'intention de faire une annonce officielle. Alors, une fois que la chose a été officielle, j'ai vu que mon incrédulité était partagée, ça m'a un petit peu réconfortée. Dans le New York Times, le journaliste Charles McGrath a écrit « S'il s'arrêtait, ce serait comme s'il cessait de respirer ». La romancière Cynthia Ozick a renchéri « Un écrivain qui cesse d'écrire » alors qu'il respire encore, se déclare immédiatement posthume à l'avance. Alors, évidemment, j'ai demandé à Roth de s'expliquer, et à ma grande surprise, il a accepté de le faire pour le hors-série du Monde Une vie, une œuvre, qui est paru en 2013, avant justement qu'il, à ma grande surprise encore, participe à la célébration de ses 80 ans, au cours de laquelle il a lu un passage de son roman préféré, celui, disait-il, où il s'est senti le plus libre, le théâtre de Sabbat. Alors l'entretien sur ce « Pourquoi ne plus écrire ?», je ne vais pas le citer en entier ici, mais au fond, ce « ne plus écrire » tenait en quelques phrases. « Je ne veux plus être esclave des exigences et de la rigueur de la littérature. Je me suis débarrassé de mon maître et je respire maintenant librement. » Et puis, il a cité le boxeur Joe Louis. « Quand il a quitté le ring, il était toujours invaincu. Et quand il a arrêté, les journalistes lui ont demandé de parler de sa carrière. » Il a répondu par une phrase magnifique, très succincte, une douzaine de mots pleins de sagesse. « J'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais. » Invaincu ? Est-ce qu'il était invaincu, Roth ? Réponse : « J'ai connu pas mal de défaites. Mais moi aussi, j'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais. » Alors évidemment, tout ça a fait que beaucoup ont sauté dans ce que vous avez appelé l'illusion rétrospective. Et évidemment, ils ont vu dans Némésis, le dernier roman publié en 2010, un livre testamentaire, précédé dans le rabaissement en 2009 d'un aveu. Un aveu parce que le héros, Simon Axler, un acteur, le seul personnage de l'œuvre de Roth qui se suicide, ne peut plus jouer parce qu'il a perdu sa magie. Alors évidemment, c'était pain béni pour les critiques de dire « Roth aussi, il a perdu sa magie, il est à sec ». Alors évidemment, il était furieux. Et il m'a dit « tout ça, c'est du romantisme ». Et l'idée que Némésis serait mon adieu à la littérature est absurde. C'est juste un roman, il y a trop de lyrisme dans ses interprétations. Alors moi, je vous avais que c'est tout ça, ça ne m'a pas vraiment convaincue. Alors je revenais à ma question basique. Comment, quand on s'est mis à son bureau tous les jours pour écrire pendant 50 ans, décide-t-on que c'est fini ? Évidemment, je n'ai jamais eu de vraie réponse. Il se contentait de redire. C'est venu comme ça, sans raison. J'avais plus envie de continuer. Je me suis arrêtée. Il n'y a rien d'autre à dire. Et je suis déjà plus heureux. Alors moi, évidemment, j'avais toujours l'air un peu perplexe, ce qui me faisait rire. Et il me disait, mais tu as vu comme je suis devenue gentille et ennuyeux depuis que je n'écris plus. Mais je sais que tu me préférais désagréable et écrivant. J'ai aussi constaté qu'après avoir cessé d'écrire, il était de plus en plus souvent malade. Mais quand même, je dois reconnaître que la maladie, c'est quelque chose qui l'a accompagné pendant une très grande partie de sa vie. Puis il est mort, en mai 2018, à 85 ans, 8 ans après la publication de son dernier livre. Et comme je le disais, on n'a pas retrouvé de texte, ni dans son ordinateur, ni dans ses papiers. Et j'ai gardé alors le sentiment de n'avoir pas compris quelque chose, et je voyais absolument pas quoi. Alors, c'est le cours du professeur Compagnon qui m'a incité à m'interroger quand même plus précisément sur cette fin. Et maintenant, il me semble qu'elle était en effet inscrite dans l'œuvre, mais pas tellement dans Le Rabaissement et Némésis, les deux dernières publications, mais avant, dans son dernier grand livre en 2007, Exit Ghost. On a traduit en français « Exit le fantôme », oui, mais il faut bien entendre Exit le jeune écrivain prometteur qui a commencé sa carrière dans The Ghostwriter en 1979, même si on l'avait croisé auparavant, 5 ans dans My Life as a Man. Donc c'est Exit Zuckerman. Exit le double préféré de Roth. Dans Exit Ghost, Zuckerman est hors-jeu, a commenté Roth quand on lui demandait de s'expliquer sur ce livre. Et à la fin du livre, on ne sait pas du tout si Zuckerman meurt. Simplement, il disparaît, il sort. J'ai donc demandé à Roth s'il allait revenir. « Jamais », m'a-t-il dit, « c'est fini. Je n'ai pas envie de revenir sur ce personnage. » Et je crois que ça menait à « moi non plus, je ne reviendrai pas ». Il me semble que se séparer de ce double préféré, c'était déjà faire une fin. Alors, allons un peu plus loin dans Zuckerman et ce livre. Quelles sont ses obsessions dans ce livre ? Pas du tout son cancer de la prostate, comme l'ont cru les critiques, qui ont trouvé que, évidemment, Ross avait dû souffrir lui-même d'un cancer de la prostate, ce qui n'est pas vrai. Je trouve qu'il a eu assez de maladies comme ça sans qu'on lui en colle une supplémentaire. Mais deux choses obsèdent Zuckerman. La biographie et ce qu'il voit comme la fin de la littérature, ou peut-être plutôt la fin de la perception de ce qu'est vraiment la littérature. Et ça, c'est deux choses qui ont occupé Roth après qu'il a cessé d'écrire. Prenons d'abord la biographie. Alors, pour Zuckerman, c'est la tyrannie de la biographie. Dans Exit Ghost, Zuckerman a retrouvé Amy Bullett. Alors, Amy Bullett, c'était la compagne de Lonoff, le grand écrivain auquel Zuckerman rend visite dans Le Ghostwriter. Et avec Amy Bullett, qui a désormais 75 ans, Zuckerman se bat pour la mémoire de Lonoff contre le jeune journaliste qui veut écrire une biographie. Parce que pour lui, l'entreprise biographique, c'est une agression de plus contre la littérature qui est déjà en perdition. Ce n'est pas tout à fait la première fois que Roth parle de la biographie. Je n'ai pas pris le passage pour vous le lire parce que ça aurait été trop long, mais il y a notamment un passage dans Deception en 90, c'est-à-dire Tromperie en français, qui sonne comme un avertissement pour tous les biographes à venir. J'espère que Blake Bailey l'a lu. Et je crois quand même que pour Roth, le fait d'avoir voulu, on lui a dit, le fait d'avoir voulu un biographe, c'est contredire Zuckerman. Je ne crois pas que ce soit tout à fait ça, parce que les craintes de Zuckerman portent sur la biographie de quelqu'un qui est mort depuis longtemps, Lonoff, et que pour Roth, faire une fin, c'était donc, un, ne plus écrire de roman, deux, contrôler sa biographie. Alors après avoir désavoué le premier biographe qui s'était choisi, Ross Miller, le neveu d'Arthur Miller, il a accepté la proposition de Blake Bailey, qui est notamment l'auteur d'une biographie de John Cheever. Et voici ce qu'il disait dans un entretien que j'ai fait en 2013, pas Bailey, Philip Roth. « Au cours des trois dernières années, je n'ai pas écrit de fiction. Je n'ai écrit que des choses pour mon biographe, des archives. C'est une écriture d'explication, un peu comme un rapport de médecin légiste. Et c'est bien plus facile que la fiction. Je n'écris qu'un premier jet. Il n'y a pas toutes les réécritures sans fin auxquelles on se livre pour un roman, ni le doute qui va avec. » Et ça rejoint ce qu'écrit Benjamin Taylor dans un essai assez émouvant et touchant, en tout cas, « Here we are, my friendship with Philip Roth », qui va être traduit en français à l'automne. Il dit « Il est faux de dire que Roth a cessé d'écrire, il a cessé de faire de l'art. » Alors, être son propre médecin légiste, est-ce qu'il en a rêvé? Est-ce qu'on en rêve tous? C'est-à-dire ne pas laisser à quelqu'un d'autre le soin d'autopsier. Est-ce qu'il y a vraiment cru ? Je ne sais pas. On peut en douter. En tout cas, on peut penser que s'il était là pour lire les 900 pages de Blake Bliley qui sont en librairie depuis 3 jours, le 6 avril, il saurait que l'autopsie a été faite par Bliley et non par lui. Et peut-être que Zuckerman reviendrait dire que les biographes s'intéressent à la vie, mais pas assez à la littérature, pas au fait que cette vie a été consacrée à écrire. L'autre message d'Exit Ghost, c'est donc la littérature est finie, ou plutôt sa perception, comme le montre une longue lettre d'Amy Bellett au courrier des lecteurs du New York Times. Elle s'est décidée à l'écrire après un reportage où un journaliste était allé dans le Michigan pour retrouver les descendants des personnes qui auraient figuré dans des nouvelles d'Hemingway et leur demander leur avis sur ces nouvelles. Évidemment, se demander si Hemingway avait bien le droit de parler ainsi de ces personnes. C'est évidemment annonciateur ce qui se passe aujourd'hui, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, la lettre est un réquisitoire, un de plus, après le fameux d'opération Shylock, contre le métier qui est le mien, journaliste littéraire. Alors vraiment, je ne peux pas ici résister au plaisir de vous lire d'abord le réquisitoire d'opération Shylock parce qu'il m'enchante. Les écrivains comprendront ce que je veux dire. Attendre de voir la critique que fera de mon dernier livre, le plus bête, le plus maladroit, le plus superficiel, le plus débile de tous les crétins bourrés de mauvaises intentions qui traînent dans ce métier, ou des abrutis sans aucune oreille et incapables de sentir la moindre nuance, passent leur temps à aligner des clichés qu'ils appellent critiques de livres, il n'y a pas grand espoir de se faire comprendre, qui ne penserait qu'il valait peut-être mieux sauter par la fenêtre. Et dans Exit Ghost, Amy Bellett renchérit sur ces journalistes culturels incapables de voir que la vraie littérature résiste à la paraphrase et à la description, réclamant du coup de la réflexion. Et la première phrase de sa lettre, c'est « Il fut un temps où les gens intelligents se servaient de la littérature pour réfléchir, ce temps ne sera bientôt plus. » Alors, je crois que la conséquence logique pour Philip Roth, c'est donc « Je m'absente », même s'il ne l'a pas fait immédiatement après Exit Ghost. Encore une phrase de lui sur la fin de son œuvre, « J'ai écrit soudain des livres brefs, je ne saurais trop dire pourquoi. » Saul Bellow a fait de même à la fin de sa vie. Pendant plus de 10 ans, j'avais écrit des livres épais. Alors, des livres brefs, il y en a eu 4. Un homme, Indignation, Le rabaissement, Némésis, et puis rien. Curieusement, le premier des 4, Un homme, est de 2006, et c'est Exit Ghost qui suit en 2007, un ultime livre de 330 pages, alors que les autres en font environ 120. Eh bien, je crois désormais... Je crois désormais que ces 330 pages sont le vrai livre de la fin, avant les derniers livres. Les dernières pages d'Exit Ghost sont un dialogue. Un dialogue parce que Zuckerman s'amusait, pendant Exit Ghost, à écrire une petite pièce pour une femme qu'il essayait de séduire. Une petite pièce où il était beaucoup question de Joseph Conrad, que Zuckerman relit comme Roth relisait La ligne d'ombre quand il écrivait ce livre. Alors, les deux personnages qui dialogue à la toute fin d'Exit Ghost, sont désignés comme « elle » et « lui ». Et je vais vous lire « elle ». Alors, à quoi avez-vous sacrifié votre vie ? Sous-entendu, si ce n'est pas à l'art dont il vient d'être question. « Lui, j'ignorais que je sacrifiais ma vie. J'ai fait ce que j'ai fait, sans savoir pourquoi. Est-ce que vous réalisez ce que les journaux feront de cela ? Est-ce que vous réalisez ce que les critiques en feront ? Ceci n'a rien à voir avec l'art, et moins encore avec la vérité. » Ou même avec la compréhension de ce qu'est la transgression. Il ne s'agit que d'émoustiller les gens. Lonoff, s'il était là, regretterait d'avoir jamais écrit la moindre ligne. Elle, il est mort, il ne regrettera rien. Et puis, après quelques autres répliques, les toutes dernières phrases du livre sont dans une parenthèse en italique, comme une indication de scénographie, et qui devient, je crois, une prédiction lorsqu'on s'intéresse à la fin de Roth. Donc la voici, donc parenthèse, et là-dessus... avec seulement un bref moment supplémentaire de folie de sa part, un moment de folle excitation, il jette toutes ses affaires dans sa valise, sauf le manuscrit non lu et les livres d'occasion de Lonoff, et sort aussi vite qu'il peut. Comment pourrait-il ne pas, entre crochets, comme il aime à dire ? Il se désintègre. Elle est en route pour venir et il s'en va. Parti pour de bon, fermez la parenthèse. Donc, exit Zuckerman, il est sorti, et Roth est sorti de la littérature. sortie du marché de l'édition, de la publication, mais sortie de l'écriture de fiction aussi, même si trois petits livres ont suivi, peut-être pour affirmer, comme il l'a dit à son ami Norman Manéa en dansant « Je suis éternel, je suis éternel », et peut-être pour alimenter l'illusion rétrospective. Évidemment, si j'étais une spécialiste de Roth, j'aurais certainement pu dire sur ce coup d'arrêt des choses beaucoup plus pertinentes. Et je vais laisser ça aux spécialistes, je vais leur laisser le soin de le faire. Mais en conclusion, et pour rire un peu, parce que le rire et Philip Roth, dans l'œuvre comme dans la vie, c'est toute une affaire, ce qui m'aurait vraiment justifié d'avoir parlé ici, dans cet amphithéâtre, ça aurait été son rire. Car ce que j'ai fait aujourd'hui renvoie à notre premier entretien à lui et moi, qui a été très dur pour moi en 1992. Et je crois savoir, quand je lui aurais rapporté cette séance, ce qu'il aurait dit en se renversant de rire dans son fauteuil. Tu as parlé de moi au Collège de France. Je t'avais bien dit en notre premier entretien en 1992 que tes questions étaient tout académiques. Tu avais détesté ça. Mais la boucle est bouclée. Tu es tout académique de nouveau, avec cette manie de chercher des raisons dans mes livres. Je te le redis, un jour, j'ai arrêté d'écrire. Point. Exit. Merci beaucoup.